Lundi dernier, nous avons fêté le baptême du Seigneur. Or, un lundi, c'est passé vraiment inaperçu, mais voilà que aujourd'hui, on peut très bien fêter, en tout cas de cœur, ce baptême de Jésus, puisque les textes s'appliquent à cette fête-là. Jean-Baptiste nous fait beaucoup de révélations sur celui qui l'annonce. Il l'appelle l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il avait reçu ça par révélation. Il le dit lui-même, puisque d'autres détails, celui sur qui tu verras reposer l'esprit et demeurer. Donc il a reçu Jean-Baptiste dans sa prière au désert, dans sa contemplation de Dieu. Il a reçu les caractéristiques de celui qu'il devait annoncer et sa mission. Mais il ne le connaissait pas pour autant. Voilà la grande annonce de Jean-Baptiste au désert. Jésus-Christ, le nom, ce nom composé, on connaît sa signification, littéralement. Jésus, ça veut dire « sauveur ». C'est ce que Jean-Baptiste nous dit, « celui qui vient nous sauver et enlever les péchés du monde ». Et Christ, on sait aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire « oint », celui qui a reçu l'onction. Donc, quand on prononce le nom Jésus-Christ, eh bien on dit « le sauveur oint », alors on traduit mieux « le sauveur qui a reçu l'onction de Dieu ». C'est ce que veut dire le mot « Jésus-Christ », ce mot composé. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste annonce. Ce nom-là, il l'a reçu, il connaissait donc l'identité Jésus-Christ. Et il connaissait aussi son cousin, mais il n'avait pas identifié l'un avec l'autre. Parce qu'il attendait le signe de Dieu, et que sans signe de Dieu, il est impossible de s'y retrouver dans le discernement spirituel en général. Une onction d'en haut. Dans la Bible, il y a beaucoup d'onctions. Les rois se faisaient oindre et les prophètes en ont oint plusieurs. Samuel qui a oint Saül, puis David. Mais là, ce n'est pas un prophète. Jean-Baptiste n'est pas chargé d'oindre Jésus. L'onction, elle se fait par le Père lui-même. Et l'onction qu'il reçoit, ce n'est pas de l'huile matérielle, c'est l'Esprit Saint. Une onction tout à fait inimaginable pour nous, et pourtant, nous en faisons l'expérience à travers le baptême. Nous recevons cette onction d'en haut, Jésus la partage avec nous, mais c'est Jésus qui va nous oindre cette fois-ci, et non plus le Père directement. L'agneau et la colombe, voici l'agneau de Dieu. Donc, agneau de Dieu égale le Sauveur qui a reçu l'onction d'en haut. C'est ce que « agneau de Dieu » signifie aussi. L'agneau et la colombe, c'est beau de voir ce que ces deux symboles d'animaux ont en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette simplicité et cette pureté qui les qualifient. Simplicité appliquée à la vie spirituelle, c'est voir les choses directement dans leur vérité. Pureté, ça s'applique évidemment au cœur pur, aux âmes qui n'ont pas de regard réflexe, aux âmes qui ne se contemplent pas elles-mêmes à travers le miroir pour se trouver belles ou pas. Voilà ce que ces deux animaux évoquent. Et il est beau de voir qu'ils s'attirent l'un l'autre, qu'ils sont poussés l'un vers l'autre, la colombe vers l'agneau, l'agneau vers la colombe. C'est très beau de voir cette attirance réciproque. Il en va de même pour nous. Lorsque nous sommes habités par la divine simplicité et la divine pureté, parce que nous appliquons l'Évangile, l'Esprit Saint vient aussitôt. Il est attiré par ce que nous sommes, par ces qualités qui nous habitent, et qui ne sont pas les nôtres d'ailleurs, qui nous sont prêtées par Dieu. Mais l'homme pécheur, lui, éloigne l'Esprit Saint. Nous le savons, c'est Jésus qui le dira plus tard. Il est un péché qui n'est pardonné ni en ce monde ni dans l'autre, le péché contre l'Esprit Saint. C'est donc tout le contraire d'être un agneau ou une colombe. C'est d'être impur et tellement compliqué dans son... Parce que dès qu'on est en soi-même, dès qu'on vit pour soi-même, dès qu'on s'aime au-dessus de Dieu, eh bien tout devient compliqué. Parce que tout ce qui nous arrive, d'abord, n'a pas de finalité. La finalité est en Dieu, elle est dans la vérité. Or, quand on s'aime soi-même, on tourne autour de son petit moi. Et tout ce qui arrive à ce petit moi est non seulement inexplicable quand c'est pas bon, mais en même temps scandaleux, révoltant. Et tout devient compliqué. Et la vie compliquée, c'est la vie du péché. La vie simple, c'est la vie sanctifiée. Jean-Baptiste, eh bien, forge cette nouvelle expression, mais en fait, il l'a reçue par révélation, mais il est le premier à la formuler. Voici l'agneau de Dieu. Lui sait bien voir la pureté et la simplicité d'un être qui est tout divin, tout donné à Dieu. Et voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et la mission de cet agneau. Et nul doute que Jean-Baptiste connaît très bien la référence au sacrifice avec l'agneau et qu'il n'ait eu quelques révélations sur la passion aussi, c'est-à-dire cet animal qu'on sacrifie pour remettre le péché. Et là, c'est un agneau tout spécial. Celui-là enlève les péchés du monde. Le mot « monde », Jean, saint Jean, est le seul à lui donner une connotation religieuse. Et Jean-Baptiste, apparemment, partageait avec l'apôtre la même interprétation. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le monde a une valeur religieuse, mais pas positive. Elle est complètement négative sous la plume de Jean. Le péché du monde, c'est justement d'être, de gésir dans l'impureté. C'est justement d'être l'anti-évangile, l'anti-religion par excellence. Mais c'est une religion. Le monde n'est pas profane. Le monde, et l'évangile de Jean nous le montre bien, c'est une force spirituelle négative, ténébreuse, détestable, mais bien agissante et bien réelle. Et ce monde, il salit les âmes qui entrent en communion avec lui. Ce monde communique de l'impureté sans cesse, comme les médias. C'est pareil, dès qu'on ouvre une page internet, pof, ça nous tombe dessus, pornographie, colère, vol, mensonge, tout y passe. C'est le monde. Et Jean-Baptiste commence à introduire en fait son auditoire à l'enseignement futur du Christ sur le monde. Le monde ne me connaît pas. Le monde ne m'accepte pas, dira-t-il. Il fait référence à la passion, parce qu'il comprend que le monde, enlever le péché du monde, ça ne peut être fait que par un être exceptionnel. Jean-Baptiste sait bien que celui qui est loin de Dieu, qui a reçu l'onction d'en haut, celui-là ne peut pas être un simple prophète. Et Jean-Baptiste le sait d'autant plus qu'il est lui-même prophète, et le plus grand des prophètes, celui qui récapitule toute la prophétie de l'Ancien Testament. Et il sait qu'aucun prophète n'a jamais pu mettre un commencement de point final au péché du peuple d'Israël. Il faut beaucoup plus que cela, il faut une parole d'éternité, fondée sur une vérité pure et sur un amour qui n'est que de Dieu. Jean-Baptiste, c'est l'aboutissement de l'Ancien Testament, de cette attente. Et le Nouveau Testament commence justement avec l'onction de l'Esprit-Saint. Il commence le Nouveau Testament, soit on peut le faire démarrer avec le baptême de Jésus, ou bien on peut attendre qu'il soit donné à tous au moment de la Pentecôte. Mais le Nouveau Testament, c'est ce don de l'Esprit Saint. Quand il est communiqué aux apôtres au moment de la Pentecôte, eh bien là commence vraiment l'histoire du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et cette histoire, il a fallu la mettre en place, elle s'ouvre, et c'est le baptême de Jésus qui l'exprime pleinement. « Je ne le connaissais pas, dit Jean-Baptiste. » Voyez, les projets de Dieu, les plans de Dieu sont complètement impénétrables. L'homme ne peut ni les anticiper, ni les capter, ni les contrôler, il ne peut rien faire. L'homme ne comprend pas les plans de Dieu. Et c'est bien là un sujet de révolte et de colère de la part beaucoup d'incroyants, mais aussi de croyants, de voir que nous sommes si peu aptes à saisir les finalités que Dieu poursuit et pourquoi il nous fait passer par des chemins parfois amers pour arriver à la purification que lui seul peut évaluer. C'est lui le Fils de Dieu, dit-il en conclusion. Lui le Fils de Dieu. Donc il connaît l'identité du Christ. Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. Il connaît son nom secret, l'agneau de Dieu, et il sait qu'il est vraiment le Fils du Père. Et c'est une connaissance qui ne peut venir que de Dieu, parce que Dieu en lui-même, le Père, il est inconnaissable. Et il se fait connaître par le Christ et par l'Esprit Saint qui est l'interprète du Christ. Mais Dieu, dans sa divinité, personne ne peut le connaître, ce n'est pas possible. On est tellement dépassé par le mystère divin. Alors Dieu vient, prend chair, et il paraît au milieu des hommes, ça commence là, au bord du Jourdain. Jésus reçoit avec beaucoup d'humilité le baptême d'eau que Jean propose pour commencer là où Jean achève, bien la mission d'évangélisation du monde. À travers l'Eucharistie que nous allons célébrer, je dirais, comme vous le savez, je montrerai l'hostie et je dirai, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et je reprendrai exactement les paroles de Jean-Baptiste en disant cela. C'est une mission irremplaçable que l'Église a le pouvoir de faire, de montrer et d'offrir l'agneau de Dieu. C'est le baptême, cette scène du baptême de Jésus, nous la revivons à chaque Eucharistie. Dieu est connaissable uniquement par Jésus-Christ, alors goûtons ce Seigneur si délicieux, délicieux pour notre cœur. Il est si miséricordieux, si pacifiant. Sa paix habite en nous et nous donne la force. Eh bien, au milieu même de la tempête du monde, de la tempête des ténèbres, eh bien, de nous tenir debout. Ah, ce n'est pas forcément un spectacle réjouissant que nous contemplons, mais nous sommes debout, nous ne sommes pas ballottés, emportés par les torrents du monde, par les eaux du monde. Non, notre cœur est à l'abri. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Et cette sagesse inimaginable qui habite le Seigneur, qu'il est, c'est plus qu'une inhabitation, il est cette sagesse éternelle. Cette sagesse éternelle qui en fait s'incarne et se dévoile, se communique, c'est Jésus. Jésus est l'Esprit Saint qui vient collaborer avec lui. Alors, devant un tel mystère, une telle beauté qui échappe complètement au monde, le monde, c'est face au mystère divin, c'est vraiment c'est d'une vulgarité incroyable, ce regard. Il y a des regards vicieux, il y a des regards vraiment libidineux, et il y a ce regard de bête brute et sauvage, ce regard vide du monde face au mystère de Dieu et à sa beauté. Oui, la lumière est apparue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il faut être enfant de Dieu, fils de la lumière, pour recevoir celui qui vient.